Bonjour, moi c'est Émilie Brigand.
Moi c'est Adeline Gaden.
On est toutes les deux journalistes, passionnées entre autres par la psychologie et par la méditation.
Et les podcasts.
Et les podcasts. Et notre rencontre avec David Sorin, d'abord en tant qu'homme, puis en tant qu'enseignant en méditation, nous a interrogé, scotché.
Le mec est tellement serein, sympa, drôle, humble, ancré.
T'es à côté de lui, t'es apaisé, t'as l'impression qu'il te donne de la lumière.
T'as l'impression que t'es assise devant la mer. Alors il fallait qu'on le fasse parler pour percer son mystère.
Or, on a découvert qu'il partait de très loin. Il était loin d'avoir les meilleures cartes en main.
Abandonné par sa mère, puis adopté, mais confronté à la violence dans son nouveau foyer, on s'est dit que ce parcours semé d'embûches et qui pourtant l'a conduit à une si grande sérénité méritait d'être raconté.
Alors aujourd'hui, on est tous les trois fiers de vous proposer Juste assis devant la mer. Dans chaque podcast,
un bout d'histoire, plus un enseignement sur la psychologie bouddhiste et une pratique de méditation guidée.
Je souhaite que ça soit inspirant pour vous.
C'est si bien dit. Nous arrivons au 10e et dernier épisode de cette série de podcasts « Juste assis devant la mer ». Ce fut une belle aventure pour Émilie Brigand et moi-même, et nous allons d'ailleurs animer ce dernier épisode ensemble. Dans « Juste assis devant la mer », David Sorin nous a parlé d'abandon, d'égarement, de peur, mais aussi d'absence de peur, puis de cheminement spirituel, d'amour, d'attachement. Le tout pour arriver à comprendre cette vie qui l'a conduit à fonder la thérapie par la méditation. C'est donc un épisode bilan, et nous l'abordons pleine de gratitude et avec la conscience d'avoir vécu une belle expérience d'interdépendance, une notion si importante dans le bouddhisme.
Bonjour, je m'appelle David Sorin, je suis un cheminant spirituel qui fait ce qu'il peut pour écouter les conseils de Bouddha, les appliquer et essayer de les transmettre de la manière la plus utile possible. Si le récit de ma vie et les enseignements qui les accompagnent peuvent être utiles, c'est merveilleux.
Est-ce que ça a été parfois douloureux de vous replonger dans certains souvenirs ?
Pas du tout.
Et c'est un travail difficile d'atteindre cette sérénité. On voit bien les gens qui ruminent sans cesse en fait des souvenirs anciens. Alors c'est vrai que dans certains cas, c'est quand même très difficile. Il y a des gens qui ont vécu des choses tellement dures, tellement horribles, tellement douloureuses. Votre message, ce serait justement de leur dire que peut-être il y a des moyens efficaces pour apaiser tout ça.
Aujourd'hui, j'ai de la difficulté à me souvenir comment on rumine et pourquoi on rumine. Ça me semble être une chose étrange. Alors bon, je sais que c'est pas évident, je sais que c'est douloureux, je sais que c'est difficile, mais on peut mettre fin définitivement aux ruminations et ça laisse la place à une liberté, un espace intérieur vraiment appréciable. Quoi, vraiment
une sérénité.
Une sérénité, on peut dire.
Est-ce que ruminer, David, ce serait un peu parler pour ne rien dire dans sa tête ?
Oui, tout à fait. Oui, c'est du bavardage inutile, en effet.
Justement, on va parler du bavardage. C'est une erreur dans le bouddhisme de bavarder. Alors là, on parlait des ruminations, donc c'est plutôt intérieur, mais le bavardage avec les gens, parler pour ne rien dire ou parler de la pluie et du beau temps. Parce que là, c'est pas ce qu'on a fait. On a parlé de choses importantes, choses utiles, comme vous le disiez.
Oui, c'est vrai que parmi les méconduites, les erreurs qu'on peut faire, il y a le bavardage inutile. Par exemple, la télévision fait partie du bavardage inutile. Le bavardage inutile fait perdre du temps. On dit des bêtises quand on bavarde inutilement. On exagère, on ment, on déforme, on médit aussi. Il y a beaucoup de médisance, sûrement, dans le bavardage inutile.
Et qu'est-ce que c'est le bavardage utile, par exemple ?
C'est peut-être ce qu'on vient de faire pendant ce podcast, parce que ça a une utilité en termes d'épanouissement intérieur, de bonheur, de bien-être. Pour savoir si une chose est bonne ou mauvaise, le critère c'est le bonheur, le bien-être durable, profond, ou le mal-être. Donc c'est vraiment ça le critère.
Est-ce que le bonheur c'est plus fort que la sérénité ? On a cette notion dans le bouddhisme qu'être heureux, c'est le but. Mais la sérénité, c'est le degré au-dessus, le degré en dessous, c'est en parallèle, c'est le ciel bleu dans lequel plane le bonheur.
Le bonheur naît facilement dans un esprit paisible. Donc il y a un lien évident, oui, entre la paix intérieure, la sérénité, l'espace de liberté intérieure et le bonheur. Alors dans le bouddhisme, le but ultime, c'est l'illumination, l'éveil, quoi. C'est-à-dire le bonheur ultime, inébranlable, durable.
C'est quoi l'éveil finalement, David ?
C'est la fin du conflit intérieur, c'est l'élimination de toutes les traces de souffrance, de toutes les graines de souffrance, c'est une liberté, la fin de la dualité aussi, c'est-à-dire la fin de l'illusion d'un moi qui observe et qui utilise le monde. Donc c'est la fin de tout conflit, on pourrait dire.
Si on devait résumer, David, parce que vous savez, moi j'aime bien les, les petits schémas, il y a l'esprit serein, duquel peut naître le bonheur, et du bonheur peut naître l'éveil. C'est encore au-dessus, l'éveil ?
Oui.
L'éveil, voilà. C'est Bouddha.
Voilà, c'est ça.
C'est un être éveillé.
Oui, en effet.
Parce que moi, quand j'entends éveil, je vois des yeux ouverts. Et quand je vois des gens qui méditent, je les vois souvent avec les yeux mi-clos.
Oui.
C'est pour avoir les yeux ouverts vers l'intérieur.
Oui, alors on pourrait donner l'image d'un enfant qui fait un cauchemar. L'enfant dort et il souffre. Puis il se réveille et le parent vient le rassurer, le consoler, lui donner de l'amour. Et l'enfant réalise que c'était juste un cauchemar. C'était juste des idées. Ça n'existait pas. Cette souffrance n'avait pas lieu d'être. Alors là, l'enfant s'éveille, il sourit, il embrasse sa maman, il est heureux. Voilà, c'est une analogie pour parler de l'éveil. En fait, pour l'instant, comme être ordinaire, on est dans le sommeil de l'ignorance.
On est dans un cauchemar, quoi.
Voilà.
Le samsara,
c'est ce qu'on appelle le samsara, une espèce de cauchemar, avec des pauses, hein. Alors, il y a des temps de joie, quand même, de bonheur, mais à un moment donné, la souffrance va revenir.
Sympa.
Et dans, dans l'éveil, ben, la souffrance ne revient pas.
Pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, David, sur la différence entre la sérénité, le bonheur et l'éveil, techniquement, dans la réalité, avant de poser un acte ou même une parole, qu'est-ce qu'il faut se demander ? Est-ce que ça va me rendre plus serein, plus heureux, plus éveillé ? Est-ce que ça va rendre les autres plus heureux, plus serein, plus éveillé ? Est-ce qu'il faut toujours prendre un temps comme ça pour réfléchir à ce qu'on va dire ou faire ? Et puis quelles questions vraiment se poser pour trouver la bonne intention, être dans l'intention juste ?
Alors oui, encore une fois, le critère, c'est vraiment le bonheur des autres et le nôtre. C'est vraiment ça le critère.
Parfois, on se trompe. On pense que telle ou telle chose va rendre quelqu'un heureux, et puis en fait, on se plante complètement, c'est pas du tout, on pense aider, on n'aide pas bien.
Oui, c'est pour ça qu'on a inventé l'éthique. L'éthique, c'est un cadre qui nous permet par avance de savoir s'il y a des chances que ça nous rende heureux ou pas.
Et les autres ?
Et les autres, voilà. On sait par exemple que de mentir, ça peut provisoirement nous donner l'impression d'un soulagement ou d'un bonheur. On se dit, ouf, j'ai bien menti, j'ai échappé à une réprimande. On se dit, ah ça y est, je suis heureux.
Et puis 10 minutes après, c'est découvert, donc ça n'a pas fonctionné.
Voilà, exactement. Donc on sait que le mensonge, d'un point de vue karmique, d'un point de vue de la loi des causes et des effets, c'est probablement cause de malheur.
Ouais, mais c'est un super exemple, et en même temps mon esprit contradictoire me fait tout de suite penser à la guerre. Par exemple, quand on mentait pour dissimuler des juifs et les sauver, on est bien d'accord que c'est du mensonge. En réalité, c'est un acte bénéfique finalement, donc
oui,
il va contre l'éthique.
Là il y a de l'altruisme, oui, en effet.
Il y a toujours une réflexion à avoir certainement au-delà de l'éthique. C'est long finalement de réfléchir à tout ça avant de poser un acte et...
Ça fait partie de l'éthique. de privilégier le bonheur des autres par rapport au sien. Si je mens pour me protéger, pour protéger ma réputation, alors c'est égoïste. Il n'y a rien d'altruiste là-dedans. Si je mens pour protéger un juif pendant la guerre, là c'est altruiste. Il y a davantage de chances que ça soit bénéfique.
Toujours faire passer les autres avant soi alors. Ça fait partie du bouddhisme, ça.
Oui, l'altruisme, c'est vraiment indispensable. C'est ça aussi, prendre soin de soi-même. Prendre soin de soi-même, c'est essayer d'abandonner l'égoïsme qui est de l'auto-préoccupation. Sur cette auto-préoccupation sont basées toutes nos souffrances. Donc en privilégiant les autres, on abandonne petit à petit l'auto-préoccupation et c'est de cette manière qu'on prend soin de soi, véritablement en profondeur.
David, comment vous voyez tous ces courants de développement personnel très centrés sur soi-même, l'amour de soi, le self-love, est-ce que justement vous essayez de plus vous intéresser à tous ces courants-là parce que ça vous heurte ou peut-être vous les voyez avec philosophie ?
Certaines personnes en sont à cette étape et puis passeront peut-être à une autre étape dans l'avenir. On a plusieurs vies pour se rattraper. Mais c'est sûr, tout ce qui fait la glorification de soi, tout ce qui nous met sur un piédestal et donne une impression bénéfique dans un premier temps. Mais c'est une illusion, c'est du plaisir en fait. À terme, ça sera de la souffrance.
Vaudrait mieux parler de réconciliation alors, plutôt que d'amour de soi.
Oui, on peut parler de réconciliation ou d'amour juste de soi, oui. Mais pas d'auto-préoccupation, pas d'orgueil, pas de glorification. Ouais. Quoi. C'est ça qu'il faut éviter, surtout. Et combien de fois on a vu dans les magazines People des personnes qui, justement, avaient suivi cette voie, des hommes d'affaires, des acteurs, des chanteurs, des cuisiniers célèbres, qui avaient beaucoup travaillé, qui avaient consacré toute leur vie à leur propre gloire, et qui ont terminé dans des états terribles de souffrance, de suicide quelquefois, de drogue, de cure de désintoxication, etc. C'est très très fréquent ça. Mm-hmm.
Donc l'auto-préoccupation, c'est absolument pas un gage de sérénité, si je comprends bien.
Oui, en effet.
En revanche, l'amour de soi, le vrai amour de soi, ça c'est un gage de sérénité. Mais comment vous le définiriez, l'amour de soi ?
C'est vrai qu'on a l'habitude de personnifier l'amour, de diriger notre amour vers quelqu'un, vers nous-mêmes ou vers les autres. Ça s'estompe avec le cheminement spirituel. De plus en plus, on parle, on ressent un amour tout court, en fait, un amour global. Et cet amour-là, il vise le bien. Donc, c'est de la bienveillance.
Vous êtes un méditant et un thérapeute par la méditation. D'ailleurs, vous avez inventé, créé, je ne sais pas comment on dit, la thérapie par la méditation.
Ouais.
C'est de l'éducation, c'est de la rééducation, les deux.
Il y a une partie éducative, oui. On a besoin d'apprendre comment fonctionne le monde avec la vision profonde. On essaie de voir au-delà des apparences, au-delà des conventions. Donc, le thérapeute par la méditation enseigne. Et on essaie de permettre à la personne de se déconditionner de toutes ces souffrances, quoi, de toutes ces habitudes, de toutes ces empreintes, ces tendances négatives. C'est du déconditionnement. Voilà.
C'est quoi la différence entre la méditation et la thérapie par la méditation ?
En thérapie par la méditation, on utilise la méditation, on utilise les enseignements, et les astuces qu'on va appliquer au quotidien pour essayer de vraiment transformer notre vie.
C'est plus pratique.
Ouais, c'est pratique. Ouais.
Il y a des risques à se mettre à méditer comme ça, soi-même, en autodidacte, à ne pas passer par un maître ou un thérapeute, justement. Il y a plein de gens qui disent, bah, moi je médite. Ouais. Oh, bah, ça va mieux, je médite.
On peut se tromper. On peut mal méditer. Il vaut mieux avoir affaire à un enseignant.
Un enseignant.
Ouais.
Un maître ou un thérapeute.
Voilà, c'est ça. Ouais. De façon à vraiment apprendre tout. toutes les finesses de la pratique méditative. C'est quelque chose de très fin, de très subtil.
Comment on sait quand on se trompe en méditation ?
Alors, si les autres dans notre entourage ne remarquent pas de transformation, c'est-à-dire si on garde notre mauvais caractère, par exemple, ou si on est toujours stressé, si on est toujours anxieux, déprimé, bon bah, c'est signe qu'il y a de l'amélioration à apporter à notre méditation. C'est vraiment aux fruits qu'on reconnaît l'arbre.
Si on s'isole aussi, peut-être, finalement, parce qu'il peut y avoir ça. Si on passe énormément de temps à méditer on prend moins de temps pour son entourage, ça peut être aussi un problème.
Oui, ça peut être un signe d'égoïsme. Ouais.
Pourtant, les moines sont relativement isolés des autres. Qu'est-ce qui fait la différence avec un civil qui se met à beaucoup méditer et qui s'isole, et un moine qui, par définition, est isolé ?
Je ne dirais pas que le moine est par définition isolé, même s'il est ermite. Parce que l'amour, la compassion, les prières pour les autres, ça fait tellement partie du quotidien d'un moine.
Au final, quelles valeurs vous semblent les plus importantes à transmettre ?
L'altruisme, la connaissance de l'esprit, le fait que le bonheur, comme tous nos états d'esprit, se trouve en nous. Donc il faut privilégier le travail intérieur, et puis l'amour, c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal.
Tout ça en essayant de ne pas nuire, en essayant de ne pas nuire aux autres, de nuire le moins possible.
Il est grand temps aussi pour nous de vous dire un grand merci pour tous les trésors que vous nous avez livrés depuis le début de cette série de podcasts et puis que vous nous avez livrés au travers aussi de votre histoire, de votre parcours et des enseignements que vous nous avez partagés. C'est important les remerciements, David ?
La gratitude, c'est important. C'est important que ça vienne du cœur, que ça vienne de l'intérieur.
La gratitude, c'est un cran au-dessus finalement des remerciements.
Ou un cran à l'intérieur, oui, en tout cas, oui.
Non, parce qu'il peut y avoir des remerciements vides.
C'est fréquent, je crois.
Une gratitude vide.
Non, ça, ça sonne mal.
Ça sonne mal.
Oui.
Quand on est plein de gratitude, on est en lien, justement, avec les autres.
On sent que notre bien-être dépend du travail des autres, dépend des efforts des autres, dépend de la bonté des autres, finalement. De ceux qui cultivent la terre pour nous procurer notre nourriture, ceux qui nous ont enseigné tout ce qui nous est utile chaque jour, ceux qui nous procurent des moyens de transport, de l'électricité, de l'eau potable.
C'est ça l'interdépendance.
Oui.
Vous allez donc nous proposer une méditation sur la gratitude et l'interdépendance, une pratique.
Oui.
Parce qu'on l'a compris, c'est bien beau la théorie, mais la pratique, c'est ce qui permet d'intégrer véritablement. Dans quelles circonstances on peut pratiquer cette méditation ?
Je vous propose de la pratiquer tous les jours, au début des repas. Vous mangez au moins 3 fois par jour, j'imagine. Alors, si vous le pratiquez pendant juste quelques secondes ou quelques minutes, les yeux fermés, juste avant de manger, c'est très bénéfique parce que vous avez dans votre assiette, sur la table, des éléments qui ont été préparés par d'autres.
Et si on n'a pas forcément le réflexe de le faire à chaque repas, on peut aussi le faire peut-être tous les soirs après avoir vécu une journée.
Oui, une très belle
longue journée.
Oui, une très belle manière de terminer positivement une journée que de se souvenir de tous les bienfaits dont on a bénéficié en lien avec les autres dans la journée.
Merci David, plein de gratitude pour ce podcast que vous espériez inspirant, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, en tout cas, d'être inspirant et puis qu'il sème plein de petites graines de sérénité, d'éveil, et puis place à la pratique. Merci David.
Thank you.
propose de vous installer dans une posture propice à la méditation. Le dos bien droit, les pieds à plat sur le sol. Et nous pouvons commencer en prenant trois longues et amples respirations. Et sur chaque expire, on abandonne toutes les tensions. Nous pouvons ressentir notre corps, les pieds, les jambes assises, ressentir le souffle dans la poitrine, relâcher le ventre, et nous autorisons l'ensemble du corps ainsi que le visage à se détendre en profondeur. Nous pouvons alors poser notre attention sur le va-et-vient de l'air à l'entrée des narines. Et à chaque instant, nous essayons de demeurer attentifs au souffle. Dans l'espace devant nous, nous pouvons alors visualiser une personne qui a été particulièrement bonne pour nous dans notre vie. Nous pouvons nous souvenir de tous les efforts que cette personne a fait pour nous. Nous pouvons générer de l'admiration, de la gratitude. Laissons notre cœur se remplir d'un remerciement vibrant, chaleureux, plein d'amour. Nous pouvons alors visualiser d'autres personnes qui ont été bonnes pour nous. Nous les remercions de la même manière, le cœur gonflé d'amour. Nous pouvons visualiser médecins, infirmiers, gratitude pour nos professeurs, gratitude pour ceux qui nous ont élevés, ceux qui nous ont donné notre corps, nos parents. Visualisons ceux qui nous fournissent de l'eau potable, de l'électricité, des réseaux informatiques, des transports, ce qui nous habille, nous protège. Puis nous abandonnons toutes les images, toutes les pensées, nous demeurons quelques instants en silence, le cœur rempli de gratitude, sans rien faire. Nous sentir reliés au monde dans une belle interdépendance. Nous pouvons en ressentir de l'amour. Pour terminer, nous offrons tous nos efforts pour le bien de tous les êtres. Puissent toutes ces personnes être heureuses.